Chapitre 11. Des murmures, la manne et les cailles. L'homme et ses chutes. Jusqu'ici, dans l'étude de ce livre, nous nous sommes occupés de la manière dont Dieu dirigeait son peuple dans le désert et y pourvoyait à ses besoins. Nous avons parcouru les 10 premiers chapitres et nous y avons vu les preuves de la sagesse, de la bonté et de la prévoyance de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Mais maintenant nous abordons un sujet plus sombre. Jusqu'ici Dieu et ses actes ont été devant nous, maintenant nous sommes appelés à contempler l'homme et son comportement, et c'est toujours triste et humiliant. L'homme est le même partout. En Éden, dans un monde restauré, dans le désert, dans le pays de Canaan, dans l'Église, dans le millénium, et il est démontré que l'homme est dans un état désespérément mauvais. Dès qu'il se meut, il tombe. Ainsi, dans les 2 premiers chapitres de la Genèse, nous voyons Dieu agir en Créateur. Tout est fait et arrangé dans une perfection divine. L'homme est placé sur cette scène pour y jouir des fruits de la sagesse, de la bonté et de la puissance de Dieu. Mais au chapitre 3, tout est changé. L'homme agit, désobéit, et introduit la ruine et la désolation. Ainsi, après le déluge, lorsque la terre a passé par ce terrible jugement et que l'homme y a repris sa place, il montre ce qu'il est et prouve que, bien loin de pouvoir soumettre et gouverner la terre, il ne peut pas même se gouverner lui-même. Genèse 9. À peine Israël a-t-il été retiré d'Égypte qu'il fait le veau d'or. La sacrificature n'est pas plutôt établie que les fils d'Aaron offrent un feu étranger. Dès que Saül est élu roi, il se montre désobéissant. Ce même fait se reproduit lorsque nous ouvrons le Nouveau Testament. L'Église n'est pas plutôt fondée et dotée du riche don du Saint-Esprit que nous entendons de tristes paroles de murmures et de mécontentement. L'histoire de l'homme, du commencement à la fin, à toute époque et en tout lieu, est marquée par les chutes. Il n'y a pas une seule exception depuis Éden jusqu'à la fin du millénium. Ce fait grave et solennel devrait trouver une place intime dans nos cœurs. Il est éminemment propre à corriger toute fausse idée sur le vrai caractère et la vraie condition de l'homme. Chacun des lecteurs a-t-il pleinement accepté cette sentence contre lui-même? Le pain du ciel nous suffit-il? Et il arriva que comme le peuple se plaignait, cela fut mauvais aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel l'entendit, et sa colère s'embrasa, et le feu de l'Éternel brûla parmi eux, et dévora au bout du camp. Et le peuple cria à Moïse, et Moïse pria l'Éternel, et le feu s'éteignit. Et on appela le nom de ce lieu Tabéra, parce que le feu de l'Éternel avait brûlé parmi eux. Et le ramassis de peuple qui était au milieu d'eux s'éprit de convoitise, et les fils d'Israël aussi se mirent encore à pleurer et dirent « Qui nous fera manger de la chair ? Il nous souvient du poisson que nous mangions en Égypte pour rien, des concombres et des melons et des poireaux et des oignons et de l'ail, et maintenant notre âme est asséchée, et il n'y a rien si ce n'est cette manne devant nos yeux. » Versets 1 à 6. Le pauvre cœur humain se dévoile entièrement ici. Ses goûts et ses tendances sont rendus manifestes. Le peuple soupirait après le pays d'Égypte et jetait en arrière des regards de regret sur ses fruits et ses potées de chair. Ils ne disent rien des coups de l'exacteur, ni de la fatigue des fours à briques. Ils ne se souviennent que des ressources par lesquelles l'Égypte avait satisfait les désirs de leur chair. Combien souvent c'est là notre cas? Quand le cœur perd la fraîcheur qu'il tire de la vie divine, quand les choses célestes commencent à perdre leur saveur, quand le premier amour diminue, quand Christ cesse d'être un trésor, quand la parole de Dieu et la prière perdent de leur valeur et deviennent comme une charge, alors le regard se reporte sur le monde, puis le cœur suit le regard, et enfin les pieds suivent le cœur. Nous oublions alors ce que le monde a été pour nous, lorsque nous y étions et que nous en faisions partie. Nous oublions quel esclavage, quelle misère et quelle dégradation il y a dans la servitude du péché et de Satan. Puis nous ne pensons qu'à la satisfaction des convoitises mondaines et la délivrance des difficultés et des luttes qui se rencontrent au désert sur le sentier du peuple de Dieu. Tout cela est fort triste, et devrait nous conduire au plus sérieux jugement de nous-mêmes. Il est affreux l'état de ceux qui, après avoir commencé à suivre le Seigneur, deviennent las du chemin et des grâces de Dieu. Quel outrage à l'Éternel que ces paroles « Et maintenant notre âme est asséchée. Il n'y a rien, si ce n'est cette manne devant nos yeux. » Qu'en est-il de nous? Trouvons-nous toujours notre manne céleste suffisante pour nous? Que signifie cette demande si fréquemment soulevée sur le bien ou le mal qu'il y a dans telle ou telle chose, dans tel ou tel plaisir du monde? On dit, nous ne pouvons pas toujours penser à Christ et aux choses du ciel, nous devons avoir quelques petites récréations. Ce langage rappelle un peu celui que tenait Israël en Nombre 11. En recherchant d'autres choses, nous montrons que Christ ne suffit pas à nos cœurs. Combien souvent ne négligeons-nous pas notre Bible pour lire longuement et avec ardeur une littérature légère et inutile? N'est-ce pas là mépriser la manne pour convoiter et pour manger les poireaux et les oignons d'Égypte? Puissions-nous marcher par l'Esprit, en sorte que Christ soit toujours une nourriture suffisante pour nos cœurs? Si Israël avait marché avec Dieu dans le désert, il n'aurait jamais pu dire « Notre âme est asséchée, il n'y a rien si ce n'est cette manne devant nos yeux ». Cette manne aurait été amplement suffisante pour eux. De même pour nous. Si nous marchons réellement avec Dieu, dans le désert de ce monde, nos âmes se contenteront de la part qu'il leur accorde, et cette part est un Christ céleste. Il satisfait le cœur de Dieu. Il remplit tous les cieux de sa gloire. Il est le thème continuel du chant des anges et l'objet suprême de leur adoration et de leur culte. Il y a en lui tout ce qui satisfait le cœur de ses rachetés. Ce bien-aimé, dans le mystère profond de sa personne, selon toute sa gloire morale, selon l'éclat et la beauté de son caractère, ne suffit-il pas à nos cœurs? Avons-nous besoin d'autre chose? Nous faut-il des choses du monde pour combler le vide de nos âmes? De mauvais éléments au sein du peuple de Dieu. Mais il nous faut revenir à notre chapitre. Nous trouvons ici une expression qui comporte un avertissement important pour nous. Et le ramassis de peuple qui était au milieu d'eux s'est pris de convoitise, et les fils d'Israël aussi se mirent encore à pleurer. Verset 4. Nous voyons combien est préjudiciable au peuple de Dieu l'association avec des hommes de principes mélangés. Il est beaucoup moins dangereux d'avoir affaire avec des ennemis connus et avoués. Satan le sait bien, et il fait de constants efforts pour amener le peuple de Dieu à s'unir avec ceux qui n'ont pas de principes arrêtés, ou pour introduire de mauvais éléments au milieu de ceux qui cherchent à poursuivre un sentier de séparation d'avec le monde. Nous trouvons dans le Nouveau Testament de fréquentes allusions à ce caractère spécial de mal. Nous le trouvons prophétiquement dans les Évangiles, et historiquement dans les Actes et dans les Épîtres. Ainsi, nous avons l'ivraie et le levain en Matthieu 13. Dans l'Épître aux Philippiens, nous trouvons des personnes qui se rattachaient à l'Assemblée et qui étaient comme le ramassis de peuple qui accompagnait Israël. Nous avons l'allusion de l'apôtre aux éléments hétérogènes introduits par l'ennemi dans le but de corrompre le témoignage et de bouleverser les âmes du peuple de Dieu. Des faux frères furtivement introduits. Galates 2, verset 4. Jude aussi parle de certains hommes qui se sont glissés parmi les fidèles. Verset 4. De tout cela, nous apprenons la nécessité urgente de veiller, de nous tenir dans une dépendance constante du Seigneur. Lui seul peut préserver son peuple de l'introduction d'éléments étrangers et le garder libre de tout contact avec des hommes d'un caractère douteux. Le ramassis de peuple étant épris de convoitise, le peuple de Dieu qui est en contact avec lui se trouve en grand danger de mépriser la manne céleste. Ce dont nous avons besoin, c'est d'être attachés à Christ en simplicité et lui être entièrement dévoués. Lorsqu'une réunion de croyants marche avec des cœurs attachés à Christ sans partage et dans une séparation marquée avec le présent siècle, il est moins à craindre que des personnes d'un caractère équivoque cherchent à prendre place au milieu d'eux. Quoique Satan essaiera toujours de détruire le témoignage en y introduisant des hypocrites. Satan savait très bien ce qu'il faisait lorsqu'il poussa le ramassis de peuple à se rallier à l'assemblée d'Israël. Ce n'est pas immédiatement que l'effet de ce mélange se manifesta. Le peuple était sorti d'Égypte à main levée. Il avait traversé la mer Rouge et avait entonné sur ses bords le chant de triomphe. Tout paraissait brillant et plein d'espérance. Mais le ramassis de peuple était là, et l'influence de sa présence s'est manifestée avec le temps. Il en est toujours ainsi dans l'histoire du peuple de Dieu. Nous pouvons discerner, dans les grands mouvements spirituels qui se sont produits au cours des âges, certains éléments de décadence qui ont d'abord été cachés par le courant abondant de la grâce et de l'énergie, mais qui se sont montrés quand ce courant a commencé à baisser. Il nous faut une très grande vigilance. Ce danger existe pour les individus et pour les assemblées. Dans les premiers moments, dans nos jours de jeunesse, quand le zèle et la fraîcheur nous caractérisent, le courant abondant de la grâce coule si bien que plusieurs choses peuvent passer sans être jugées. Cependant, ce sont en réalité des semences jetées dans le sol par la main de l'ennemi et qui, en leur saison, germeront et porteront des fruits. Moïse découragé. Mais nous avons d'autres leçons à retirer de ce chapitre. Et Moïse dit à l'Éternel, « Pourquoi as-tu fait ce mal à ton serviteur? Et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux, que tu aies mis sur moi le fardeau de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu tout ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises, « Porte-le dans ton sein, comme le nourricier porte l'enfant qui tète jusqu'au pays que tu as promis par serment à ses pères. » D'où aurais-je de la chair pour en donner à tout ce peuple? Car il pleure après moi, disant, « Donne-nous de la chair, afin que nous en mangions. » Je ne puis, moi seul, porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Et si tu agis ainsi avec moi, tue-moi donc, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et que je ne vois pas mon malheur. » Versets 11 à 15. Voilà un langage vraiment étonnant. Ce n'est pas que nous voulions nous appesantir sur les chutes et les infirmités d'un serviteur aussi dévoué que Moïse. Nous aimons au contraire à nous souvenir que le Saint-Esprit rend de lui ce beau témoignage qu'il était fidèle dans toute la maison de Dieu. Hébreux 3, verset 2. Chaque allusion qui lui est faite dans le Nouveau Testament tend à l'honorer. Cependant, nous sommes tenus de prêter attention à l'histoire inspirée que nous avons maintenant sous les yeux, écrite par Moïse lui-même. Que devons-nous donc apprendre de cette explosion de découragement? Au moins ceci, que c'est le désert qui fait ressortir ce qui se trouve dans le meilleur d'entre nous. C'est là que nous montrons ce qui est dans nos cœurs. Et comme le livre des Nombres est expressément le livre du désert, il est bien compréhensible que nous y trouvions toutes sortes de chutes et d'infirmités pleinement dévoilées. L'Esprit de Dieu y inscrit fidèlement chaque chose. Il nous montre les hommes tels qu'ils sont. Et quoique ce soit un Moïse, qui parle légèrement de ses lèvres, cette légèreté même est rapportée pour nous servir d'avertissement et d'instruction. Moïse était un homme ayant les mêmes passions que nous. Or, il est évident qu'en ce moment de son histoire, son cœur succombe sous le poids de sa responsabilité. L'oubli des ressources divines. On dira peut-être, son fardeau était beaucoup trop pesant pour les épaules humaines. Mais la question est celle-ci. Est-il trop lourd pour des épaules divines? Moïse était-il réellement appelé à porter seul le fardeau? Le Dieu vivant était avec lui, et il suffisait. Toute la puissance, toute la sagesse, toute la grâce sont en lui. Il est la source de toute bénédiction. Que sa puissance se déverse par un seul canal ou par mille, cela n'a aucune importance. Nous avons ici à constater un beau principe moral pour tous les serviteurs de Christ. Lorsque le Seigneur place un homme dans une position de responsabilité, il le rend capable d'occuper cette position. C'est naturellement une toute autre chose lorsqu'un homme, sans y être appelé, veut se lancer dans un champ de travail ou dans quelque poste difficile ou dangereux. Dans ce dernier cas, nous pouvons assurément nous attendre tôt ou tard à une chute complète. Mais quand Dieu appelle un homme à une certaine position, il lui donne la grâce nécessaire pour occuper cette position. Il n'envoie jamais quelqu'un à la guerre à ses propres frais, et par conséquent, tout ce que nous avons à faire, c'est de nous attendre à lui pour tout. C'est une grande leçon pour le désert. Si Moïse l'avait pleinement comprise, il n'aurait jamais dit « D'où ?» aurais-je de la chair pour en donner à tout ce peuple? Il aurait fixé ses yeux sur Dieu seul. Il aurait compris qu'il n'était qu'un instrument dans les mains de Dieu dont les ressources sont illimitées. Moïse, évidemment, n'aurait pas pu fournir des vivres à cette immense multitude, pas même pour un seul jour. Mais l'Éternel peut suppléer aux besoins de tout ce qui vit, et il peut y suppléer pour toujours. Ne nous arrive-t-il pas de raisonner comme si c'était à nous à pourvoir aux besoins à la place de Dieu? Et alors nous sommes abattus et nous succombons au découragement. En vérité, Moïse pouvait bien dire « Je ne puis moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. » Il n'y avait qu'un seul cœur qui pouvait supporter une telle compagnie. C'est le cœur de Dieu qui, lorsque les Israélites se fatiguaient auprès des fours à briques de l'Égypte, était descendu pour les délivrer, et qui, les ayant rachetés de la main de leurs ennemis, avait établi sa demeure au milieu d'eux. Il pouvait les supporter, et il le pouvait seul. Son cœur et sa main puissante suffisaient seuls à cette tâche. Et si Moïse avait été toujours pénétré de cette grande vérité, il n'aurait pas pu dire « Et si tu agis ainsi avec moi, tue-moi donc, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, et que je ne vois pas mon malheur. » Ce fut assurément un moment sombre dans la vie de l'illustre serviteur de Dieu. Cela nous rappelle un peu le prophète Élie, quand il se jeta au pied d'un genêt et qu'il demanda à l'Éternel de lui ôter la vie. Qu'il est merveilleux de voir ces deux hommes ensemble sur la montagne de la Transfiguration. Cela prouve d'une manière remarquable que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées et que ses voix ne sont pas nos voix. Il avait en réserve pour Moïse et Élie quelque chose de mieux que tout ce qu'ils avaient en vue. Béni soit son nom. Il réduit nos craintes au silence par les richesses de sa grâce. Et quand nos pauvres cœurs s'attendent à la mort et au malheur, il donne la vie, la victoire et la gloire. 70 anciens d'Israël. Toutefois, nous ne pouvons manquer de voir qu'en reculant devant une position de lourde responsabilité, Moïse renonçait à une dignité et à un privilège. Cela apparaît clairement dans le passage suivant. « Et l'Éternel dit à Moïse, « Assemble-moi 70 hommes des anciens d'Israël, que tu sais être des anciens du peuple et ses magistrats, et amène-les à la tente d'assignation, et ils se tiendront là avec toi. Et je descendrai, et je parlerai avec toi, et j'ôterai de l'esprit qui est sur toi, et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi le fardeau du peuple, et que tu ne le portes pas toi seul. » Versets 16 et 17. Cette introduction de 70 hommes ajoutait-elle de la puissance à Moïse? Aucune, assurément, vu que ce n'était après tout que l'esprit qui était déjà sur Moïse. La multiplication des hommes n'apportait pas une augmentation de puissance spirituelle. Cette addition d'hommes épargnait de la peine à Moïse, mais lui enlevait de sa dignité. Le meilleur des hommes tombe, et il paraît extrêmement clair que Moïse, dans ce chapitre, n'était pas dans l'élévation calme de la foi. Il semble avoir perdu pour un moment cet équilibre parfait de l'âme qui caractérise ceux qui n'ont que le Dieu vivant pour centre de leur pensée. Or, nous déduisons ceci non pas uniquement du fait qu'il avait chancelé sous le poids de sa responsabilité, mais encore de ce qui est dit au paragraphe suivant. La réponse de Dieu à l'incrédulité. Et tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la chair, car vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel, disant, qui nous fera manger de la chair, car nous étions bien en Égypte. Et l'Éternel vous donnera de la chair, et vous en mangerez. Vous n'en mangerez pas un jour, ni deux jours, ni cinq jours, ni dix jours, ni vingt jours, mais jusqu'à un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines, et que vous l'ayez en dégoût. Parce que vous avez méprisé l'Éternel qui est au milieu de vous, et que vous avez pleuré devant lui, disant, « Pourquoi sommes-nous donc sortis d'Égypte ?» Et Moïse dit, « Il y a 600 000 hommes de pied dans ce peuple au milieu duquel je suis, et tu as dit, « Je leur donnerai de la chair, et ils en mangeront un mois entier. Leur égorgera-t-on du menu et du gros bétail, afin qu'il y en ait assez pour eux ? Ou assemblera-t-on tous les poissons de la mer pour eux, afin qu'il y en ait assez pour eux ?» Et l'Éternel dit à Moïse, « La main de l'Éternel est-elle devenue courte ? Tu verras maintenant si ce que j'ai dit t'arrivera ou non. » Versets 18 à 23. L'esprit d'incrédulité tend toujours à limiter la puissance de Dieu. Le Dieu Tout-Puissant, le possesseur des cieux et de la terre, le Créateur des bouts de la terre, ne pouvait-il pas fournir de la chair à 600 000 hommes de pied? Hélas, c'est justement cela que nous manquons tous si tristement. Nous ne prenons pas possession, comme nous le devrions, de cette vérité que nous avons à faire avec le Dieu vivant. La foi introduit Dieu sur la scène, et par conséquent, elle ne connaît aucune difficulté. Elle se rit des impossibilités. Pour la foi, Dieu est la grande réponse à toute question, la grande solution à toute difficulté. Elle rapporte tout à lui, et par conséquent, il ne lui importe nullement qu'il s'agisse de 600 000 ou de 600 000 000. Elle sait que Dieu est tout à fait suffisant. Elle trouve toutes ses ressources en lui. L'incrédulité est pleine d'eux. Comment? Mais la foi a une seule grande réponse. Dieu. L'Esprit sur les 70 anciens. Et Moïse sortit et dit au peuple les paroles de l'Éternel, et il assembla 70 hommes des anciens du peuple, et les fit se tenir tout autour de la tente. Et l'Éternel descendit dans la nuée, et il lui parla, et il ôta de l'Esprit qui était sur lui, et le mit sur les 70 anciens. Et il arriva qu'aussitôt que l'Esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Versets 24 et 25. Le vrai secret de tout ministère, c'est la puissance spirituelle. Ce n'est pas le génie, l'intelligence ou l'énergie de l'homme, mais simplement la puissance de l'Esprit de Dieu. Ceci était vrai dans les jours de Moïse, et l'est encore maintenant. Ni par force, ni par puissance, mais par mon Esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie 4, verset 6. Il est bon que tous les ministres s'en souviennent toujours. Cela soutiendra leur cœur et donnera à leur ministère une fraîcheur continuelle. Un ministère qui découle d'une dépendance permanente du Saint-Esprit ne peut pas devenir stérile. Mais si un homme se confie en ses propres ressources, il sera bientôt dépourvu. Peu importe ses talents ou l'étendue de ses connaissances, si le Saint-Esprit n'est pas la source et la puissance de son ministère, celui-ci perdra tôt ou tard sa fraîcheur et son effet. Il est de la plus haute importance que tous ceux qui servent, soit dans l'évangélisation, soit dans l'Église de Dieu, s'appuient continuellement et exclusivement sur la puissance du Saint-Esprit. Il sait ce dont les âmes ont besoin, et il peut y suppléer, mais on doit se confier en lui et user de lui. La confiance en soi-même entrave le travail de l'Esprit. Cela ne nous dispense pas de montrer diligence et ardeur dans l'étude de la parole de Dieu, ni de manifester une sollicitude active à l'égard des besoins des âmes. Tout au contraire, plus nous nous appuierons avec le sentiment de notre propre néant sur la grande puissance du Saint-Esprit, plus nous manifesterons de zèle. La dépendance du Saint-Esprit n'est pas un oreiller de paresse. Occupe-toi de ces choses, sois-y tout entier, afin que tes progrès soient évidents à tous. 1 Timothée 4, verset 15. Mais que l'on se souvienne toujours que le Saint-Esprit est la source intarissable et vivante du ministère. C'est lui seul qui peut déployer dans leur fraîcheur et leur plénitude divine les trésors de la parole de Dieu et les appliquer selon sa puissance aux besoins actuels des âmes. Il ne s'agit pas d'exposer de nouvelles vérités, mais simplement de dérouler la parole elle-même de manière qu'elle agisse sur l'état spirituel et moral du peuple de Dieu. Voilà le vrai ministère. Un homme peut parler bien des fois sur la même portion de l'Écriture et aux mêmes personnes, et dans chaque occasion, il peut annoncer Christ à leurs âmes avec une nouvelle fraîcheur spirituelle. Et d'un autre côté, un homme peut se tourmenter l'esprit pour découvrir de nouveaux sujets et de nouvelles manières de traiter de vieux textes, et malgré tout, il peut ne pas y avoir trace de Christ ou de puissance spirituelle dans sa prédication. Tout cela est vrai pour l'évangéliste aussi bien que pour le docteur ou pour le pasteur. Prêcher l'évangile, c'est réellement dévoiler le cœur de Dieu. La personne est l'œuvre de Christ, et cela par l'énergie présente du Saint-Esprit, énergie nourrie par le trésor inépuisable de l'Écriture sainte. Dans le cas de Moïse, tel qu'il nous est rapporté dans ce chapitre, il n'y a pas eu augmentation de puissance, mais l'esprit qu'il possédait seul a été répandu sur les 70 anciens. Dieu peut agir par le moyen d'un seul homme, aussi bien que par celui de 70. Et si lui n'agit pas, 70 ne feront pas plus qu'un seul. Il est de la plus haute importance d'avoir toujours Dieu présent devant notre âme. C'est le vrai secret de la puissance et de la fraîcheur, soit pour l'évangéliste, soit pour le docteur, soit pour tout autre. Quand un homme compte vraiment sur Dieu et s'appuie sur les ressources divines, il n'a pas besoin de se mettre en peine au sujet de sa sphère d'activité ou de son aptitude à la remplir. Mais quand il ne s'appuie pas vraiment sur Dieu, il est bien compréhensible qu'il cherche à partager, avec d'autres, ses travaux et sa responsabilité. Rappelons-nous comment Moïse, au commencement du livre de l'Exode, allait à contre-cœur en Égypte, oubliant la simple dépendance de Dieu, et comment il a été prompt de se faire accompagner par Aaron. C'est ce qui nous arrive souvent. Nous aimons quelque chose de palpable, quelque chose que l'œil puisse voir et que la main puisse toucher. Nous trouvons difficile de voir celui qui est invisible. Et cependant, l'appui sur lequel nous voulions nous reposer est bien souvent un roseau cassé qui nous percera la main. Aaron a été pour Moïse une source de chagrin. Et ceux que, dans notre folie, nous nous imaginons être des aides indispensables, deviennent fréquemment tout le contraire. Oh, puissions-nous tous apprendre à nous reposer sur le Dieu vivant, avec un cœur sincère et une confiance inébranlable. Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Voyons maintenant l'esprit vraiment excellent avec lequel Moïse affronte les circonstances où il s'était placé lui-même. C'est une chose de reculer devant le poids de la responsabilité et du travail, et c'en est une autre de se comporter avec une vraie humilité envers ceux qui sont appelés à partager le fardeau avec nous. Dans la scène que nous avons sous les yeux, Moïse montre la douceur qui le caractérise si particulièrement. Et il était demeuré deux hommes dans le camp, le nom de l'un était Eldad et le nom du second Médad, et l'esprit reposa sur eux. Et ils étaient de ceux qui avaient été inscrits, mais ils n'étaient pas sortis vers la tente, et ils prophétisèrent dans le camp. Et un jeune homme courut et rapporta cela à Moïse, disant, « Eldad et Médad prophétisent dans le camp. » Et Josué, fils de Nun, qui servait Moïse, l'un de ces jeunes gens, répondit et dit, « Monseigneur Moïse, empêche-les. » Et Moïse lui dit, « Es-tu jaloux pour moi ? Ah, que plutôt tout le peuple de l'Éternel fût prophète, que l'Éternel mit son esprit sur eux. » Versets 26 à 29. Ceci est très beau. Moïse était disposé à se réjouir de toutes les manifestations de la vraie puissance spirituelle de quelque lieu ou de quelque individu qu'elle vienne. Il savait très bien que ces deux hommes ne pouvaient prophétiser réellement que par la puissance de l'Esprit de Dieu. Et en quelque lieu que cette puissance se manifeste, il n'était pas question pour lui de chercher à l'étouffer ou à s'y opposer. Il serait bon qu'il y ait en nous davantage de cet excellent esprit. Que Dieu nous accorde la grâce de nous réjouir sincèrement du témoignage et du service des enfants de Dieu, lors même que nous ne voyons pas toutes choses du même œil qu'eux, et quoique notre méthode et notre mesure puissent différer. Si l'Esprit de Christ est à l'œuvre dans nos cœurs, nous pourrons sortir de nous-mêmes et embrasser en esprit le vaste champ de travail de notre Maître et tous ses ouvriers partout. Nous pourrons nous réjouir pleinement de ce que l'œuvre du Seigneur s'accomplit par les ouvriers qu'il y a poussés. Gardons-nous de cette étroitesse et de cet égoïsme qui ne peuvent se réjouir que dans un travail où le « je » et le « moi » ont une place évidente. Que le Seigneur nous donne cet état d'âme que Moïse manifestait lorsqu'il disait « Es-tu jaloux pour moi ? Ah, que plutôt tout le peuple de l'Éternel fût prophète, que l'Éternel mit son esprit sur eux. » L'écaille. Le dernier paragraphe de notre chapitre nous montre le peuple livré à la misérable et fatale jouissance des choses pour lesquelles leur cœur avait été épris de convoitise. Il leur donna ce qu'ils avaient demandé, mais il envoya la consomption dans leurs âmes. Psaume 106, verset 15. Ils obtinrent ce qu'ils avaient ardemment désiré, et ils y trouvèrent la mort. Ils avaient voulu avoir de la chair, et avec elle vint le jugement de Dieu. Cela est très solennel. Le cœur de l'homme est plein de désirs et de convoitises. La manne céleste ne le satisfait pas. Il lui faut autre chose. Dieu nous permet de l'avoir. Mais alors, ce que nous avions convoité devient l'instrument de notre jugement. Quel avertissement pour nous !